partage, Catherine Parizeau.
Bonjour à tous. Tout le monde rit et pourtant rares sont ceux qui tentent de comprendre comment ça marche. Quant à ceux qui y parviennent, on peut citer Bergson et aussi Freud. Et depuis peu, il y a aussi Baudelaire, j'oubliais aussi. Et bien sûr, Daniel Cibony, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Cibony, vous êtes entre autres psychanalyste, écrivain. Et votre dernier opus, L'essence du rire et de l'humour, paru chez Odile Jacob, propose peut-être une explication. Alors, est-ce que pour autant vous nous proposez une théorie tout armée comme ça, sortie de votre cerveau ?
Ben vous savez, d'une part, à mon avis, le rire n'a pas besoin d'être expliqué. Il peut être, on peut essayer d'en comprendre le sens ou l'essence. J'ai donné comme titre l'essence du rire, un peu comme un clin d'œil à Baudelaire qui lui a écrit l'essence, l'apostrophe du rire. Et justement, c'est en confrontant tous ces points de vue, Freud, Bergson, Baudelaire et quelques autres, et en analysant des maîtres du comique, je veux dire, j'ai fait une grande place à Raymond Devos, mais pas seulement. Et puis, je dois vous dire, en articulant tout cela avec mon expérience, j'ai toujours été un enfant rieur. Je relève d'une tradition où le rire et la détresse se marient parfaitement bien, si l'on peut dire. Et ça m'a permis, je crois, non seulement d'intégrer ces différents points de vue. Par exemple, je montre que Bergson et Freud disent un peu la même chose. En même temps que Baudelaire. Mais je crois que ça m'a permis, et j'étais très content, parce que moi j'écris des livres pour apprendre quelque chose, y compris de moi-même. Et donc j'étais assez content à la fin d'y voir plus clair. C'est-à-dire de comprendre vraiment ce qui est en jeu dans le rire, et ce qui est un peu différent de l'humour, et de l'avoir compris m'a donné un grand éclat de rire.
Alors qu'est-ce qui est en jeu dans le rire ?
Ben, je crois que ce qui est en jeu, on le verra, enfin ceux qui liront le livre, et verront que déjà ça commence par un désir de secouer l'identité. C'est-à-dire qu'on est tous, on est posés là, sur des fauteuils, debout, etc. On a l'air un peu identique à soi-même. Et le rire suppose, comme par un accord tacite, allez, on va essayer d'être un peu différent de soi-même. On va essayer de se décaler par rapport à soi-même. Déjà, la première phrase du livre dit exactement le projet. Le rire est une secousse plaisante qui déstabilise, mais sans laquelle on serait stable en continu, identique à soi-même, dans un ennui inébranlable. C'est-à-dire qu'on pose et qu'on va prendre les choses autrement qui feront qu'on est un peu même en contradiction avec soi-même. Mais cette contradiction n'est pas dangereuse. Vous voyez, on mobilise en nous. Alors Bergson dit « l'humain est l'automate », voilà une première contradiction. Freud dit le manifeste et le refoulé.
Oui.
Et Baudelaire dit le significatif, ce qu'on voit, et le grotesque.
Oui.
Voilà. Et moi, je dis, on mobilise toute chance d'un certain entre-deux.
Oui, donc, autrement dit, quand on reprend souvent cette citation un petit peu éculée de Bergson, c'est le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant, c'est pas
c'est
ça.
C'est plus que réducteur, oui. Parce que prenez du mécanique, plaquez-le sur du vivant, ça fait pas forcément rire.
Oui, d'ailleurs, dans votre livre, là, vous analysez Charlie Chaplin en train de visser ses boulons à la chaîne. Oui. Et alors justement, où est le mécanique, où est le vivant?
Ça, on le voit. Ben, voilà. C'est Bergson, lui, il a été à fond dans cette image, mais il me semble qu'il ne l'a pas poursuivi jusqu'au bout, parce que quand Chaplin, dans les temps modernes, sort avec sa clé à molette et continue à visser, et ce qui, il y a le mécanique, on le voit. Le vivant, ben, ce sont des hommes et c'est pas des roulements à billes qu'il est en train de visser. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait rire? Ou est-ce que c'est, par exemple, le fait que, vissant des nez ou des oreilles, etc., il crée de nouvelles situations dans lesquelles la contradiction éclate entre ce qu'on vit et ce qu'on pense. Et déjà lui-même, est-ce que ce qu'il a de comique, ça ne serait pas au-delà de cette contradiction entre le mécanique et le vivant? C'est par exemple le fait qu'il en est, lui, totalement inconscient. Donc on rit de ce que on a devant soi, un individu totalement parti.
Et en même temps, quelque part, il s'y retrouve. C'est ce qui lui permet de s'y retrouver.
Mais il s'y retrouve en se perdant.
En se perdant, voilà. C'est ça.
Et donc, à nouveau, et regardez d'ailleurs, dans le premier chapitre qui s'appelle « Rire, c'est se secouer l'identité », j'ai montré que souvent, les blagues, certaines blagues, commencent par une redéfinition des choses. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un économiste? C'est un expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier ne s'est pas produit aujourd'hui. Vous voyez, c'est une redéfinition et qui évidemment est drôle parce qu'elle met le doigt sur cette contradiction dont on peut dire qu'on la vit aujourd'hui, enfin qu'on la vit même tous les jours.
Et puis là, on peut retrouver aussi le retour du refoulé. Là, je pensais à une des blagues que vous racontez à propos de Freud.
Oui.
Le glissement de Katzmann à Shalom. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Elle est extraordinaire, celle-là.
Oui, c'est pas d'ailleurs de Freud. C'est une blague tout à fait actuelle. C'est un juif allemand qui émigre en France et qui décide qu'il faut quand même arrondir son nom. Il n'aime pas la consonance juive ni la consonance allemande et il décide de le traduire en français. Alors, Katz veut dire chat et Mann veut dire l'homme, alors il s'est appelé Shalom. Et ça ferait très plaisir à Freud parce que ça veut dire qu'il a voulu refouler son origine ou son identité et qu'elle éclate. Et c'est un des béabas, disons, de la psychanalyse, et qui dit que si vous voulez absolument ignorer un refoulé, maintenir refoulé certaines choses, elles vont vous rattraper si vous ne vous expliquez pas avec. Et il y a d'ailleurs dans ce même début qui redéfinit les choses, regardez cette blague juive d'ailleurs, et Jésus, c'est un juif. La preuve, il est resté à la maison jusqu'à 30 ans. Il a succédé à son père dans le business. Sa mère le trouvait divin et lui la croyait vierge. Voilà, donc c'est la
tout
preuve.
Est dit.
Voilà. C'est la preuve qu'il était juif.
Et donc, c'est vrai que l'humour juif, qu'est-ce qu'il est riche?
Ben, il est riche parce que le peuple juif a eu, je pense, à vivre des situations où, disons, il valait mieux en rire qu'en pleurer. Donc, les larmes étant disponibles, le plus malin, le plus original, c'était quand même de trouver de quoi rire. Et je crois qu'en fait, là, ça va très loin, au-delà évidemment du peuple juif. Je crois que si on arrive à comprendre le rire comme cette espèce de plongée dans un bain de contradictions, mais assumée, pas dangereuse,
voilà,
pas délabrante, vous voyez, alors on est mis au défi dans toutes sortes de situations. Quand je dis que les cadres s'entrechoquent, c'est-à-dire les définitions, Les individus se font face aujourd'hui comme des fonctions, comme des cadres.
Oui.
Voilà, chacun a sa fonction. On ne vous parle plus à vous, on parle aux attributions que vous représentez. Et vous me parlez à moi en tant que représentant, blabla, etc. Mais si ces cadres s'entrechoquent, aujourd'hui, c'est la source majeure de la violence. J'appelle ça, j'ai écrit un livre sur la violence. Parmi mes 34 livres, il y a un qui s'appelle « Violence ». Et qui analyse la violence comme un choc de deux symptômes ou comme un choc de deux cadrages, de deux cadres, donc de deux identités. Si on arrive au moment de cet entrechoc à avoir la petite sérénité, la petite confiance dans l'avenir, dans soi-même, dans l'autre, qui permettrait de différer cette violence et d'en rire, ou d'en sourire même, tellement ce choc est souvent dérisoire, mais qui met en jeu des amours propres, des attentions, il faut pas perdre la face, etc. Alors que les enjeux peuvent être très minces. Si on y arrive, alors c'est une respiration inouïe.
Le problème, c'est que dans le cas de la caricature, par exemple, je pense aux caricatures de Mahomet, échec.
Échec, parce que justement, certains ont en toute bonne foi, si vous voulez, pensé qu'il y avait une autre culture qui était en train de s'intégrer. De s'intégrer, en l'occurrence au Danemark, oui. Que les lois étaient favorables, qu'il n'y avait pas de problème, et hop, soudain, ils s'aperçoivent que, en traitant ce grand homme de l'autre culture comme on traite nos grands hommes, y compris Jésus, Moïse, etc., Jéhovah, et bien, que ça tirait pas à conséquence. Or, ça a fait un tollé général, d'ailleurs différé, c'est-à-dire organisé par des personnes qui y sont allées spécialement. Et là, ça a révélé donc que cette intégration, elle n'était pas si évidente que ça, qu'on mettait dessus des cataplasmes, mais que les problèmes étaient réels et qu'on ne pouvait pas les passer sous silence. Et surtout, ça a créé de la peur. Parce que quand vous avez un producteur américain qui, lui, prépare ses films, ses programmes, quand vous avez un metteur en scène allemand qui prépare ses opéras, etc., et qui soudain voit que Mahomet est en jeu et qui efface, qui zappe, c'est de la peur. Oui. Autrement dit, quand on parle d'islamophobie en la dénonçant, « Oui, c'est de l'islamophobie », etc., on oublie un sens tout simple, c'est qu'il y a une peur de l'islam radical qui apparemment serait partagée aussi par des musulmans qui ont peur aussi de l'islam radical, même s'ils ne l'expriment pas, cette peur, ou ils n'essayent pas de faire alliance avec les autres qui ont peur pour combattre ces excès. Parce qu'au moment de la caricature de Mahomet, c'est l'ensemble de la Oumma qui s'est dressée, et ces types, ces pauvres garçons qui ont fait ça dans les meilleures intentions, ils se sont cachés.
Et là, ça me fait penser à un passage dans votre livre où vous évoquez le fait qu'au Moyen-Âge, le rire n'était pas du tout considéré comme quelque chose de bien au niveau religieux, j'entends.
Au niveau religieux, mais là, je trouve que le Moyen-Âge était en avance sur nous.
Oui.
Parce que l'Église, certes, avec toute sa tradition inquisitoriale, etc., et maintenait une espèce d'ambiance de sérieux, de gravité, etc., mais tolérait presque à côté de l'Église, pas loin du tout, des moments et des lieux, des scènes où le rire du grotesque, le rire de l'éclat, où on s'éclate, comme on dirait aujourd'hui, était plus que permis, était organisé, mais sans limite. Alors qu'aujourd'hui...
Oui, c'est vrai que dans le carnaval, ça pouvait être extraordinaire.
Voilà. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, même s'il y a des lieux comme ça pour rire, des revues comiques, il y a il y a un contrôle. Attention, c'est pas la censure qui viendra vous dire, oui, vous êtes censuré, parce que le mot censure est censuré dans notre société. Personne. Personne ne n'osera dire qu'il y a de la censure. Moi, je le traduis, le mot censure est censuré, mais le phénomène existe. Ouais. Donc, on ne viendra pas vous censurer, mais on viendra vous dire, mais tu es sûr que tu l'es ça, parce que tu n'as pas peur, qu'on te tombe dessus. Autrement dit, aujourd'hui, la peur tient lieu de censure, d'une censure qui ne dit pas son nom, alors qu'au Moyen-Âge et dans d'autres époques et dans d'autres cultures, on se déchaînait, mais à côté, pas dans les lieux, et c'est normal.
Et alors, que pensez-vous, par exemple, du succès de quelqu'un comme Stéphane Guillon, par exemple ?
Stéphane Guillon,
sur alors, France Inter, qui a quelques cibles bien. Éric Besson.
Je vois ce que vous voulez dire. Oui, mais ça, alors là, il y a une espèce de rire. Déjà, moi, je distingue le rire du grotesque ou le rire de la joie pure, etc., du rire de situation. Et dans le rire de situation, il y a encore des classes, notamment le rire d'imitation.
Oui.
Le rire de la simple caricature ou de la satire, etc. Et là, j'étais surpris que très souvent, on s'acharne sur des individus sans que ça produise du rire. Moi, à la limite, si au moins ça produisait du rire, on convaincrait la personne sans difficulté que ça ne lui fait pas de mal et que c'est admis, etc. Le problème est que ça ne produit pas du rire. Et donc, je trouve que...
Et en l'occurrence, d'ailleurs, cela braque les victimes en question, quoi.
Que ça braque les victimes, ça va de soi. Mais le problème, c'est que ça n'est pas productif de ce moment libérateur qui... parce que pour revenir aux caricatures de Mahomet, à la limite, l'intention était vraiment bonne au départ. C'était « on traite tous les grands hommes ensemble, de la même façon ». Tandis que là... Avec la peur, on va savoir qu'il y en a un qui est tabou. Et donc, le départ était très, très rassembleur. Voilà, on est tous des humains dans la même galère. Nos grands hommes, ça n'est que des hommes. Vous voyez, d'ailleurs, Jésus, c'était qu'un juif inspiré, etc. Et donc, il y avait une manière d'être en communauté, une communauté élargie.
Mais est-ce que pour autant, le rire est universel ?
Je pense, moi, que tous les humains rient, même s'ils ne rient pas selon les mêmes codes et de la même façon. C'est sûr que... Alors, je n'ai pas vérifié, mais je pense quand même que le chatouillement... et doit être assez universel, et que assez universellement, on peut trouver des gens qui résistent au chatouillement, même ici. Je veux dire, vous avez des gens, vous les chatouillez, ça les met très mal à l'aise, parce que ils ont une sécurité narcissique, une protection narcissique qui ne supporte pas cette prise de risque. Or, je pense que le chatouillement, le rire du chatouillement ou du jeu avec l'enfant, vous savez, on s'approche d'un tout petit, on se couvre les yeux comme ça, et puis on feint de pleurer, par exemple, et puis hop, on écarte les mains et il éclate de rire comme une découverte. Et je montre comment le jeu de cache-cache, ça va beaucoup plus loin que le jeu de cache-cache habituel, qu'en réalité, rire, c'est cacher-montrer. Ou montrer qu'on cache ce qui est montré, etc. Donc c'est tout un jeu, et le chatouillement, c'est une espèce de pseudo-pénétration. On fait comme si on allait pénétrer, donc c'est presque un semblant de rapport érotique, mais on ne pénètre pas, juste on touche, et ça donne un rire, et je pense que c'est une des formes universelles, je suis certain. que tous les gens, tous les humains, j'ai appris qu'au Japon, où peut-être il y a des blocages à certains niveaux, ils ont mis le sourire comme matière optionnelle en terminale dans les lycées. Donc on apprend à sourire. Ouais. Ce qui est pathétique, surtout. Ça veut dire que bientôt, on va... Et j'analyse aussi dans ce livre...
Alors là, ça va être du mécanique plaqué sur du vivant, là, pour le coup.
Ou du mécanique plaqué sur du mécanique.
Ou sur du... Ah oui, ce qui est encore pire.
Voilà. J'analyse aussi dans ce livre ce qu'on appelle les groupes de rire. Parce qu'il y a des groupes qui ont constaté, c'est un peu le comportementalisme du rire, c'est-à-dire on a constaté que rire, ça faisait du bien, ça libérait des endorphines.
Oui, ça a des vertus thérapeutiques.
Ça faisait du bien à la circulation de certaines hormones, etc. Et donc, on va faire des groupes pour rire, et en vue de rire plutôt. Et alors, on se met en train, j'en ai observé, je n'ai pas approfondi plus que ça l'enquête, mais l'idée, c'est qu'il y a un animateur qu'on appelle un rigologue, qui, rien que le mot, oui. Voilà, qui...
Ça serait plutôt à ses dépens qu'on en rirait, je pense.
qui chauffe un peu au début, qui suggère, car c'est de la suggestion, pas forcément hypnotique, mais c'est de la suggestion, qui suggère que voilà, tout va bien, qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Puis soudain, un éclat de rire fuse, par lui ou par un autre, et il y a un mimétisme presque animal du groupe, et le groupe se met à rire, et puisqu'il rit, alors il rit. Ça veut dire le rire s'auto-entretient. Et bon, ils en sortent, voilà, comme détendus, soulagés, etc. Et moi, je trouve que ça passe évidemment très à côté de l'enjeu ontologique, philosophique, humain du rire, parce que je dirais que là, c'est le corps qui rit, et dans tout rire, le corps est impliqué, mais là, la pensée ne rit pas.
Oui, alors là, on est à des années-lumière du rire de Sarah.
Ah, ben
parlez-nous
voilà.
Du rire de Sarah.
Venons-en au rire de Sarah. Alors, moi, c'est un rire qui m'a beaucoup touché parce que, d'abord, je suis un lecteur assidu de la Bible depuis l'âge de 4-5 ans. J'ai la chance de la lire en hébreu. J'ai publié un livre qui s'appelle Lecture biblique.
Oui, ce qui va beaucoup intéresser nos auditeurs de fréquence protestante, bien sûr.
Voilà, j'ai des groupes d'études bibliques, avec pas toujours en y appliquant la psychanalyse, mais en utilisant aussi cet instrument. Et donc, je ne pouvais pas faire un livre sur le rire sans parler du rire de Sarah. Or, le rire de
Sarah...
Alors,
juste une petite seconde, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Daniel Siboni, et donc nous sommes en train de parler du rire. Voilà, donc le rire de Sarah.
Voilà. Donc, le rire de Sarah, d'abord, c'est très curieux, mais c'est passé dans la tradition, dans toutes les traditions, comme le rire de Sarah. Or, le rire de Sarah suit le rire d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham reçoit la visite d'un messager divin qui lui dit « Je ferai de toi un grand peuple et des nations sortiront de tes entrailles. » Et Abraham est très étonné. Il dit « Mon Dieu, si déjà Ismaël se tenait devant toi. » Et l'autre, la voix divine, lui dit « Non, c'est de toi et de Sarah que sortira l'enfant qui portera en quelque sorte l'alliance. » Alors Abraham, et ce qui est écrit, « Vaïpol Abraham alpanav », Abraham tomba sur sa face, « Vaïtsrak », et il a ri. Et la voix lui dit, « Tu l'appelleras Yitzhak. » Tu l'appelleras, Yitzhak veut dire « il rira ». Donc le nom est déjà donné avant que l'enfant soit conçu, par le fait que le père, Abraham, a ri en entendant que c'était possible. Ensuite, on connaît l'épisode des trois messagers, dont l'un représente le divin. Et quand ils arrivent, en allant vers Sodome, ils s'arrêtent devant la tente d'Abraham, qui les accueille, hospitalité d'Abraham, bien connue. Et à la fin du repas, et au moment où ils prennent congé, ils disent bon, alors l'un d'eux dit Moed Hazed, ça veut dire dans un an, dans le l'anniversaire de ce moment-là, la nouvelle la rencontre, et Sarah tiendra un enfant dans ses bras. Alors Sarah était derrière à l'entrée de la tente, mais elle a entendu et elle a ri. Et à ce moment-là, il y a un échange. Et je pense que c'est pour ça que la tradition a retenu le rire de Sarah. C'est que le messager dit « Pourquoi Sarah a ri ?» Et Sarah dit « Je n'ai pas ri !» Parce qu'elle a eu peur. Et l'autre dit « Si !» Elle a ri et il ajoute « Aïpale me Adonai davar, y a-t-il une chose extraordinaire pour Adonai, pour Yahvé ?» Autrement dit, c'est d'accord, c'est extraordinaire que deux vieillards du quatrième ou cinquième âge
aient
procréé. Mais voilà, c'est une chose possible. Et donc...
Oui, quitte à ce que cela déplaise à Agar et à Ismaël.
Et que ça fasse des problèmes, c'est sûr. Mais il faut dire que Sarah avait eu au départ l'idée de la mère porteuse. C'est de dire, je te donne ma servante, etc. Mais elle a méconnu la jalousie entre deux femmes, qui fait que quand Agar a été enceinte, la mère porteuse, elle s'est attachée à son enfant. Elle a regardé la femme stérile, Sarah, de haut. La femme a été blessée, etc. C'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui même. Les mères porteuses, rien n'indique qu'une mère qui porte un enfant pour une autre, et elle ne va pas s'y attacher. Et on ne peut pas garantir par un acte écrit que dans les 9 mois qui vont s'écouler, elle ne va pas s'y attacher et donc elle ne va pas rompre le contrat. Bon, fermons cette parenthèse. Or, le rire de Sarah et donc d'Abraham, il me paraît très beau. D'abord parce qu'il contient les deux rires en question. Il contient le rire du grotesque. C'est grotesque. Deux vieillards qui vont avoir un enfant.
Et puis qui vont faire l'amour aussi.
Qui vont faire l'amour. Ça paraît grotesque. Ouais. Donc, et deuxièmement, ça heurte les lois de la nature.
Oui.
Ça aussi, c'est le miracle, entre guillemets, c'est-à-dire la chose extraordinaire qui fait qu'on peut être sidéré, perplexe, stupéfait, mais qu'on peut rire. Et puis, il y a le rire, je dirais que ça va du côté du rire préliminaire au rapport sexuel, c'est-à-dire à ce rire de joie qu'ont les amants, qui n'a pas de raison, sinon le fait d'être là, à se s'entrepénétrer, à se toucher, etc., à se posséder. Et donc, c'est un rire qui va assez loin. Or, le fait que la Bible l'ait mis dès le début, dans la Genèse, et ça veut dire, ça a une grande portée. Pourquoi ? Parce que le même personnage qui a ri, ou plutôt qui s'appelle de ce rire, Yitzhak, le même personnage a eu à endurer une épreuve d'aller jusqu'à la mort, jusqu'au dernier moment, puisqu'il a failli être sacrifié, c'est-à-dire a connu la détresse maximale. Et je pense que si la Bible hébraïque a mis ce personnage presque à l'entrée, c'est comme pour mettre tout le destin de ce peuple hébreu entre ces deux colonnes, le rire et l'anxiété, l'angoisse, la détresse de l'effacement, de l'extermination, de la disparition, y compris celle de l'Alliance.
Vous voyez, donc là, nous sommes vraiment dans des questions totalement existentielles.
Voilà.
Et donc, dans ce livre, vous trouverez bien sûr cette dimension-là. Vous verrez aussi des choses beaucoup plus légères, par exemple, dans les intermèdes que nous propose Daniel Siboni, et puis aussi cette oscillation entre émotions et exemples concrets et analyse de type psychanalytique. Donc vraiment là, je vous recommande chaudement la lecture donc des les sens du rire et de l'humour de Daniel Siboni, paru aux éditions Odile Jacob. Merci Daniel Siboni.
Merci.